surprise, motherfuckers.
Bienvenue au Bagarre Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagarre Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagarre Club, votre émission 100% MMA, 100% bagarre. On est de retour pour un mardi de plus, pas un mardi de pro, et on a l'équipe au complet. Nora est avec nous à la régie, comment vas-tu Nora?
Ça va très bien, et toi?
Eh bien ça va à merveille également. Hugo est présent, comment vas-tu Hugo?
Ça va super.
Ça a l'air.
Ah oh, waouh, oh, je sature de ouf, tu peux baisser.
Ouais, désolé.
C'est pas grave.
Lounis est également avec nous, comment vas-tu Lounis?
Ça va très bien, et toi Aurel?
Eh bien écoute, je me porte à merveille, prêt pour une nouvelle émission. Au sommaire du coup de cette émission, on a la semaine dernière du coup on a vu un petit peu de manière plus en détail l'UFC 300, donc on a analysé un petit peu combat par combat. Là on va rester dans la thématique du moment et on va avoir une analyse un peu plus à froid sur l'événement global. On va essayer d'évaluer un petit peu quelle serait la suite idéale pour les combattants, qu'est-ce que cette UFC implique dans le monde du, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde du MMA, l'impact que ça a eu, l'impact que ça aura dans le futur. Donc voilà, on va revenir sur tout ce côté un petit peu plus global qui a entouré cet événement historique. Et enfin, on parlera aussi un petit peu des annonces donc qui avaient été faites avec notamment le retour de l'Irlandais Conor McGregor qui affrontera Michael Chandler au mois de juin.
Mais non.
Et oui.
Et c'est incroyable.
Nora qui l'apprend.
Nora qui l'apprend.
Complètement.
Non.
Ouais, ça y est, c'est officiel. On en parlera voilà en fin d'émission.
Yes.
Et ben sans plus attendre, on va commencer déjà à faire nos actus et voilà tout simplement. Allez, jingle.
How much can you know about yourself if you've never been in a fight?
Les actualités MMA de la semaine dans le Bagarre Club.
Comme on vient de le dire, du coup, on va rester autour de la thématique de l'UFC 300 et dans un premier temps, on va s'intéresser un petit peu aux combattants eux-mêmes et surtout à quelle va être un petit peu la suite pour chacun. Donc les gars, je vais vous dire un combattant qui a combattu à l'UFC 300 et ça va être à nous un petit peu d'essayer de voir quels seraient ses prochains adversaires. Est-ce qu'il faut faire une pause? Est-ce qu'il faut... Voilà, donc attendre un petit peu la suite pour les combattants. On va commencer par, on va faire dans l'ordre, on va commencer par le main event avec Alex Pereira.
Alex Pereira.
Ouais, Alex Pereira, le gagnant. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas trop énormément à réfléchir, même s'il y a quand même un doute. Après le combat, il avait annoncé qu'il voulait surtout, il avait surtout Magomed Ankalaev dans le viseur. Ouais. Voilà, donc Luni, si tu peux nous en parler un petit peu plus de ce combattant.
Alors, Magomed Ankalaev, donc c'est un combattant d'origine daghestanaise, donc qui vient un peu de cette école Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, toute cette école de combattants très complets, mais qui ont surtout mis une grosse emphase sur la lutte. Mais Magomed Ankalaev, c'est aussi un combattant qui excelle dans les contres. On l'a vu récemment face à
Johnny Walker,
notamment, où il l'a complètement couché sur un crochet qui était parfaitement timé. Donc, Ankalaev, il a aussi eu justement un parcours, on va dire sportif assez tumultueux. Il est sorti d'un combat qui a mal tourné, justement d'un premier combat qui a mal tourné contre Johnny Walker. Avant ça, il avait justement subi une égalité face à Jan Blachowicz, donc ça fait un moment justement qu'il est entre guillemets qu'il devrait être champion, en tout cas accéder au titre. Et que ça ne s'est pas fait ou ça n'a pas pu se faire. Donc là, effectivement, le combat contre Pereira pourrait être intéressant. C'est un combat justement qui m'intéresserait dans la mesure où j'aimerais bien voir Pereira face à un combattant qui est, on va dire, qui a une approche assez complète du MMA. Jamal Hill, c'était un kickboxer, très bon, hein, mais un kickboxer au demeurant. Iri Prochazka également, il avait, bon, certes, ses atouts et on va dire ses particularités, mais on restait quand même essentiellement sur du pied-point. Et même si face à, il y a eu Jan Blachowicz, Alex Pereira a déjà affronté Jan Blachowicz, mais voilà, c'était une décision un petit peu, décision partagée, moi je voyais plutôt.
C'est le combattant qui l'a mis le plus en difficulté.
Bah, clairement.
Et pourtant, Jan Blachowicz est plutôt vieillissant, il est plutôt sur la fin de carrière que vraiment un Magomed Ankalaev qui lui arrive à pleine balle. Nora, une question.
Oui, si on parle en fait stratégie de carrière un petit peu, tu viens de dire que j'ai plus son nom, mais l'adversaire dont tu parlais, Ankalaev, n'a pas de titre. Du coup, quel est l'intérêt pour Pereira d'aller combattre
défendre son titre.
Bah, il défend son titre quand tu deviens donc champion d'une catégorie à l'UFC. Ça implique que tu devras donc défendre cette ceinture face à justement des challengers, donc des combattants mieux classés, enfin des combattants qui ont atteint une forte position dans le classement.
Ok.
Et face à qui justement tu devras monter, ben donc que tu mérites de rester champion parce que tu auras battu ces challengers.
Parce qu'en fait actuellement Pereira est champion. Ankalaev est pas très loin dans le classement derrière lui, c'est ça.
C'est ça. Je crois même qu'il est premier.
Ouais, donc en fait la meilleure défense c'est l'attaque finalement.
Bah non, mais ça se résume facilement dans le sens où pour dire que t'es le meilleur, c'est-à-dire le champion du monde, bah tu dois affronter les meilleurs. Si,
c'est
voilà, c'est tout.
C'est
surtout en fait, s'il veut combattre, il est obligé de combattre des gens moins bien classés que lui parce qu'il n'y a pas mieux classé que lui.
S'il voudrait combattre mieux classé, ce qu'il a d'ailleurs fait savoir Pereira, il faut monter de catégorie. Là, en l'occurrence, Pereira a fait savoir qu'il aimerait bien, à terme, il souhaite d'abord défendre sa ceinture chez les poids lourds légers, mais il aimerait bien faire une transition chez les poids lourds et essayer comme ça d'ajouter une troisième ceinture à son palmarès et donc d'aller potentiellement défier Thomas Spinal ou John Jones. On verra.
Il est dans quelle catégorie actuellement?
Il est en lourd léger, Pereira.
D'accord, lourd léger. Et au-dessus, c'est poids lourd.
C'est les poids lourds.
Ouais. Ok, ouais.
Et du coup, oui, moi, pourquoi je fais.
Non, parce qu'on sait, parce que on sait, bref.
Oh, John Jones, hein.
John Jones, en fait, il a un combat contre Stipe Miocic de prévu, enfin, même pas de prévu, mais qui devait être prévu à un moment. Et voilà, blessure, tout ça. Mm-hmm. Et on pense qu'une fois que ce combat aura eu lieu, que ce soit John Jones ou Stipe Miocic, les deux prendront leur retraite.
Voilà.
Ok. Voilà,
tout simplement.
Voilà.
Ensuite, du coup, voilà pour Pereira, donc probablement Magomed Ankalaev,
c'est
le plus probable.
Moi, j'aimerais bien Thomas Spinal quand même.
Bien sûr.
Non, mais en vrai, vous avez raison. Faut qu'il se fasse les dents un petit peu encore. Là.
Et pourquoi c'est ça. Thomas Spinal?
Parce que ce serait le combat de Kaiju.
Champion de la catégorie au-dessus. En fait, il est champion intérimaire. Ce qui veut dire qu'il n'est pas champion absolu. Mais.
Comme John Jones, c'est parfaitement inactif. C'est comme si Thomas Spinal était le vrai champion des poids lourds. Je termine juste sur un point. Ce qui est drôle, c'est que Pereira peut potentiellement éteindre n'importe qui avec sa gauche. Et Thomas Spinal n'est jamais resté plus d'une minute cinquante dans l'octogone parce qu'il tue ses adversaires avant, en fait.
Ça pourrait être hyper intéressant, quoi.
Mais je donne un léger avantage, je donne un avantage assez certain à Thomas Spinal.
Oui, aussi.
Parce qu'il est dans une catégorie dessus ou parce qu'il est mieux entraîné?
Et parce qu'il est plus complet, plus jeune, plus explosif, plus puissant. Voilà.
Et plus lourd et plus habitué à être aussi lourd aussi.
Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, Pereira, il peut éteindre tout le monde. Bref. Voilà, du coup, pour Alex Pereira, on va passer à son adversaire. Du coup, en plus, ça nous fera sûrement l'occasion de parler d'un des nôtres combattants, d'un autre combattant de la carte, Jamal Hill, qui est sur une défaite. Et ce qui se dit là comme ça, ce serait Prochka.
Il a un combat de préparé.
Jamal Hill.
Oui. Il a un combat.
Ah mais oui, contre.
Khalil Rountree.
Ah mais oui,
ou Khalil Rountree. Je ne sais pas comment on explique.
Qui avait mis une sacrée, qui avait envoyé Anthony Smith en correctionnel là pendant le mois de décembre, ça s'est mal passé.
Khalil Rountree,
il fait très mal.
C'est un meurtrier, je pense. S'il n'avait pas été combattant de MMA,
je ne sais pas si c'était le meilleur choix pour Jamal Hill après s'être pris un chaos de la part de Pereira de dire non, vas-y. Deux mois après, je repars pour affronter Khalil Rountree. Je sais pas si c'est un très très bon choix, mais en tout cas, il le fait.
Bah, et puis Rountree,
on peut déjà saluer son activité.
Ah oui, non, mais oui, par contre, il estime personne. Hein, ça, faut ça, le dire. Il a l'écrou.
Bon, je suis quand même très content qu'il soit pris un gros KO, mais on peut saluer le fait qu'il repart au charbon directement.
Ah, si,
et du coup, juste pour redire sur Khalil Rountree, je pense que c'est l'un des mecs les plus violents qu'on est à l'UFC actuellement. Son objectif, c'est vraiment blesser l'adversaire le plus possible, quitte à l'handicaper pour une partie de sa carrière. On a vu les kicks sur les genoux qu'il a fait dans certains de ses combats, où en fait, il aurait pu briser des genoux très très facilement avec ces kicks-là.
Mais il est jamais rappelé à l'ordre par les...
Il a le droit.
Il a le droit de porter des coups aussi violents.
Il reste dans les règles, mais juste.
C'est un coup qui est un peu sujet à débat. Certains pensent l'interdire, des choses comme ça.
Ok.
Donc, il a le droit, il s'en sert. Certains savent qu'ils ont le droit, mais ils le font pas. Et voilà. Donc, c'est un coup qui porte un peu à débat.
Mais ce qui m'amène à une question bon, qui est peut-être, on s'éloigne un peu du sujet, mais il y a beaucoup de blessés graves qui développent ensuite des infirmités au MMA. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes?
Ça dépend à
mais
quel
est-ce
niveau
que en fait, dans la mesure où les règles sont différentes d'autres arts martiaux, est-ce que c'est plus courant dans le MMA qu'ailleurs?
Non.
Les blessures sont courantes,
plus de blessés, en tout cas. Ouais. Il y a plus de blessés et de morts en boxe. Quand MMA
alors, de mort enfin source et blessé non mais alors oui c'est vrai que prends des contacts
je le dis comme ça mais j'ai déjà vu ça je dis ça avec avec une certitude assez importante quand même. Après oui faut retrouver les sources
Bref, voilà. Du coup, Jamal Hill, Khalil Roundtree dans 2 mois.
Voilà. D'ailleurs, il fait peur. Hein. J'ai regardé les photos là-dessus.
Ce serait très drôle quand même. Bon, très drôle, tragique aussi. Mais ce serait que Jamal Hill se prenne, comment dire, une autre dérouillée de la part de Khalil Roundtree. Et qu'après, l'UFC dise, bon, écoute, on va être sympa avec toi. On va te donner Yere Pro HK. Tu vas te remettre tranquillement sur le devant de la scène.
Non, non.
Et là, ce serait tragique pour lui.
Voilà, du coup, un petit peu pour la suite des combattants du main event. Ensuite, on va passer au co-main event avec les femmes, notamment la victorieuse Zhang Weili.
Ouais.
Du coup, moi, j'ai regardé un petit peu le classement des poids paille féminins, donc la catégorie de Zhang Weili. Et il y a une adversaire qui m'est apparue directement, c'est Tatiana Suarez, qui est à 11-0, première challengeuse.
Ah.
Bon bah ça me semble être évident. Hein.
Ça semble tout tracé. D'autant que alors j'avais lu ça il y a un moment donné, mais il me semble que Zhang Weili avait à nouveau comme les trois quarts, 95% des champions UFC, elle avait fait savoir qu'elle aimerait bien potentiellement affronter Valentina Shevchenko, Alexa Grasso, si l'occasion pouvait se présenter pour avoir un super fight comme ça chez les femmes, truc qui n'était pas arrivé quasiment depuis Shevchenko contre Amanda Nunes. Mais là, comme on l'a vu hein, avec notamment le cas de Manon Fiorot, la catégorie du coup des poids mouches est quelque peu c'est poids mouche.
Poids mouche, oui, c'est ça. Ouais,
poids mouche est un peu bloqué justement vis-à-vis mince des vis-à-vis de la rivalité entre Shevchenko et Grasso. Donc je pense pas que Zhang Weili obtiendra ce combat-là avant un moment. Et effectivement, comme tu l'as dit, Tatiana Suarez, ça me semble être un combat tout assez logique pour elle.
On sait quand est-ce que c'est la revanche Grasso-Shevchenko?
Fin septembre, dans la sphère de Vegas.
Voilà, avec oui, parce qu'en fait il y a une série The Ultimate Fighter, donc Aurel, si tu j'ai pas le courage, mais si tu veux expliquer un petit peu ce que c'est The Ultimate Fighter vite
non,
fait.
Non, bah en gros c'est une émission où il y a deux combattants de l'UFC qui montent chacun des équipes de combattants amateurs ou semi-pro ou pro. Oui, voilà, mais vraiment des combattants jeunes, on va dire. Et à la fin, il y a enfin chacun des combattants s'affronte, il y a un tournoi et à la fin le but c'est que les deux coachs s'affrontent lors d'un gros événement UFC.
Et là du coup la prochaine saison ce sera Grasso contre Shevchenko.
C'est ça.
Ah, intéressant.
Tout à fait.
Intéressant.
Sachant que la dernière du coup c'était McGregor Chandler, on en reparlera évidemment. Son adversaire du coup à Zhang Weili, Yan Xiaonan. Du coup, qui est sur une défaite. Moi, j'ai regardé encore une fois le classement. Et j'ai vu, pareil, on va revenir sur une des combattantes qui est ressortie victorieuse à l'UFC 300, Jessica Andrade.
Ah oui.
Jessica Andrade, ça pourrait donner un combat très intéressant. Deux combattantes, c'est des durs à cuire, les deux. Hein,
oui,
vraiment.
Oui,
elles ont de la puissance, toutes les deux.
Elles ont de la puissance, et plutôt un bon menton. En tout cas, elles sont capables d'absorber un certain nombre de coups et elles ont beaucoup de cœur. Donc, ça pourrait être intéressant, effectivement.
Voilà. Bon, on va pas. Le temps nous manque, donc on va pas non plus développer énormément sur chaque combattant. On va enchaîner. Holloway, je pense qu'il n'y a pas de suspense, c'est Topuria.
Ça semble, je pense qu'il l'a mérité. Honnêtement, qu'il l'a mérité quand même son essai face à Topuria.
On le rappelle, Max Holloway, prestation légendaire à l'UFC 300, qui était du coup en poids léger et sa catégorie de base à Holloway, on l'a dit, c'est les poids plumes, donc celle d'en dessous. Le champion des poids plumes actuel, c'est Ilia Topuria. Sachant qu'Holloway a été champion très longtemps avant de se faire détrôner par Volkanovski. Là, il ressort d'une très grosse performance. Tous les autres combattants des poids plumes, il les a battus à part Volkanovski. Sachant que Volkanovski est plutôt parti pour faire une pause assez longue, je pense que s'ils veulent donner un combattant digne de ce nom à Ilia Topuria, c'est Max Holloway.
Ouais.
Voilà, tout simplement.
J'ai hâte de voir le combat.
Les deux se sont cherchés un petit peu sur les réseaux, donc je pense que ça va se faire. Justin Gaethje, l'adversaire de Max Holloway.
Ah.
Donc là, c'est pas les adversaires qui manquent en poids léger. Hein.
Mais il faut garder un truc en tête. Je le dis juste parce que je pense que c'est important de le prendre en compte dans nos analyses. Justin Gaethje, c'est une fin de carrière hein, bientôt. Faut y penser. C'est là les dégâts qu'il a pris.
Oui.
Je sais plus quel âge il a, mais c'est quand même pas.
Ouais, c'est vrai qu'il est pas, voilà. Il est plus tout jeune.
C'est vrai que j'ai vu plusieurs personnes dire, et pour le coup, j'y avais pas pensé, mais ils ont raison. Il y avait plusieurs personnes qui disaient, peut-être qu'on a vu le dernier combat de Justin Gaethje dans l'octogone. Ce que je n'espère pas.
Oh non,
mais, non, il va malheureusement, bah, il va continuer. Il s'arrêtera pas là. C'est triste. Hein, je pense qu'il devrait s'arrêter là, même, mais il va continuer.
Non,
ce qui serait bien, c'est un ou deux combats vraiment impressionnants pour l'argent et la gloire.
Il mériterait. Non, je pense que. Enfin, pardon, j'allais dire quelque chose, mais.
Vas-y.
On en parlera à la fin de l'émission. Mais vis-à-vis, en fait, le problème de Justin Gaethje, c'est que il y a pas de combat repos, si je puis dire, chez les poids légers. À partir du moment où vous êtes dans le top 10 et même dans le top 15, il y a que des tueurs à gages. Vous pouvez pas vous faire un combat, on va dire, où on se remet un peu en selle, on met le pied à l'étrier. Non. C'est il y a la moindre erreur est punie par une finition dans la catégorie poids léger. Donc
malgré tout, moi j'avais deux noms en tête, donc deux noms qui sont plutôt qui restent quand même dans le top 10 de la catégorie. Ce serait Mateusz Gamrot.
Oui.
Qui pourrait être un challenge intéressant. Voilà, Gamrot qui a plutôt un profil de lutteur, donc. Voilà, disons que ça peut être un test intéressant pour Gaethje.
Mais surtout que Gaethje, et peu de gens le savent, et je fais juste une aparté là-dessus, Gaethje est champion de lutte universitaire. Mais on l'a jamais vu lutter dans un seul de ses combats, mais c'est le cas.
Donc, il y a eu une fois où il est parti sur un takedown. La vidéo est très rigolote parce que tu le vois partir sur un takedown, et je sais pas comment, je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé de près, mais en fait, il part sur le takedown, la personne ne bouge pas et lui, il tombe en arrière et il fait un espèce de chandelle arrière. Et il y avait quelqu'un qui disait le corps de Gaethje repousse la lutte de lui-même, quoi, par sa volonté propre. Et j'ai trouvé ça très rigolo.
Voilà, donc du coup, j'ai pensé à Mateusz Gamrot ou autre combattant du coup de l'UFC 300, Renato Moicano, qui est sur une victoire contre Jalin Turner, qui est un petit peu en train de remonter petit à petit le classement des poids légers. Donc ça pourrait être intéressant et spectaculaire à la fois, parce que Moicano, c'est un client aussi.
Oh, c'est vrai. Donc, c'est vrai.
Moi, ce que je trouve juste dommage, c'est que je sais pas si lui. Alors, j'essaie de formuler ça bien. Ce que je trouve dommage, c'est que Gaethje n'ait pas attendu son title shot.
Ouais. Peut-être.
Je ne sais pas. Peut-être que l'UFC lui a dit bon, si tu veux ton title shot, tu bats Max Holloway parce que ça nous sauve les miches, si je peux me permettre cette expression. Oui. Extrêmement moche. Ça nous sauve un peu la mise pour. C'est mieux. Ça nous sauve la mise pour cette UFC 300 où il nous manquait un combat de brut. Bon, bah voilà. Tu le fais.
Et malgré tout, il avait quand même sa ceinture BMF à défendre. Donc il peut pas plus attendre tant qu'il veut.
Non, mais la ceinture BMF, c'est un multi-marketing. Arrêtons de faire comme si. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que la ceinture BMF, moi je le mets de côté dans le sens où là il était top 2 de la catégorie sur une victoire face à Dustin Poirier.
Je pense surtout que je suis pas sûr parce que je pense que en tête l'UFC avait surtout pensé qu'Olivera allait battre Sarokhan, ils se sont dit bah vas-y le Makhachev Olivera on va le refaire. Je pense qu'ils avaient surtout ça en tête. Donc pour moi, Oliveira serait passé devant Justin Gaethje qui a déjà eu deux title shots qu'il a raté.
Après, ils auraient pu faire Justin Gaethje, on le fait pas combattre. On le met sur l'UFC 301 avec Makhachev. Le gagnant affrontera Oliveira ou Tsarukyan.
Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. La suite du coup, on en parle justement, Oliveira ou Tsarukyan. Bah, Tsarukyan, je pense que c'est clair et net, ça va être le prochain, après Dustin Poirier, ce sera sûrement le prochain adversaire
de Islam
Makhachev.
Il l'a mérité.
Ça me semble clair et net. Pour Oliveira, c'est plus compliqué. Disons qu'il y a plus d'incertitudes. Forcément, il va devoir commencer à viser un petit peu plus.
Non, je peux pas en parler
tout de
suite.
Ils sont déjà affrontés. Moi, j'imagine Fidjev, j'imagine peut-être Gamrot, j'imagine plutôt dans ce coin-là. Parce que c'est vrai que tous les autres du top 5, du coup, ils vont être pris. Oui. Et forcément, il va falloir commencer à avoir entre le top 10 et les 5.
Gamrot, je pense que c'est pas mal.
Gamrot, c'est pas mal. Ça pourrait être un client intéressant. Donc, on aura un combat au sol. vraiment, je pense, l'idéal un petit peu pour remettre Oliveira sur pied si l'UFC a toujours l'intention de le faire.
On n'est pas sûr d'avoir un combat au sol. Ils sont forts tous les deux au sol, mais peut-être que justement, à la façon d'un Kamaru Usman, Colby Covington, qui étaient tous les deux très forts en lutte, oui, et qui ont passé leur combat debout sans faire un gramme de lutte.
C'est très impressionnant.
C'est très cool comme combat.
C'est vrai, peut-être. Mais ouais, du coup, Gamrot, Fidiev, moi, c'est à cela que je pensais. Lounis, t'avais une idée ?
Pour un prochain adversaire d'Oliveira ?
Ouais, bien sûr. Pas pour un prochain adversaire d'Hugo.
Je dis ça parce que je ne savais plus si nous parlions de Saroukian ou justement d'Oliveira. Mais concernant Oliveira, il y a toujours Fiziev qui devrait être dispo justement quand il reviendra de sa blessure. Ça pourrait justement être assez intéressant.
Ça fait combien de temps d'ailleurs
qu'il est blessé ? C'était septembre.
8 mois, je crois.
C'est long.
Ah ouais. C'est les croisés.
Il ne fait pas d'efforts.
Ouais, ça doit être ça. Ouais.
Ça ou alors, je ne vais pas trop en dire, on en parlera à la fin de l'émission. Je vais teaser le truc comme ça. S'il y en a un qui mérite, je pense, là, chez les poids légers, un énorme paycheck, c'est quand même Oliveira. Il aurait le droit à son money fight contre McGregor, je pense.
Ouais. Voilà. Donc, les solutions un petit peu pour Oliveira. On va terminer sur un petit dernier comme ça. Bonical, il est temps de lui mettre un top 15 de la catégorie.
Ah oui, c'est bon, on en a marre de le voir.
J'ai une théorie. Je ne sais pas s'ils vont faire ça, mais un peu de la même manière où on avait eu Ramzat Chimaev contre Gilbert Burns pour un peu pousser directement Ramzat Chimaev à affronter justement un top 5 hein, carrément. Je verrais bien un Bonical contre Brendan Allen.
Ah, ce serait intéressant, combat de sol.
L'UFC l'a déjà fait, je ne sors pas effectivement ça de nulle part, parce que ça a déjà eu lieu, mais de vraiment pousser un combattant très vite.
Après, c'est différent, parce que Brendan Allen, il est vraiment en pleine montée, est-ce qu'il a envie de se prendre un autre...
Et il a un bon sol, aussi.
Parce que tu vois, Gilbert Burns, c'était plutôt un vétéran.
Mais Burns avait, enfin je dis ça, c'est au choix du combattant, mais Burns avait quand même accepté justement d'affronter Ramzat Chimaev pour montrer que non, moi j'ai peur de personne, je suis prêt à prendre n'importe qui, si tant est que ça me permette d'accéder au titre après.
C'est vrai, mais bon, là, je sais pas, je trouve que c'est différent, parce que Gilbert Burns, c'était un peu sa dernière chance, tu vois, si vous voulez accéder au titre.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, alors que là, Brendan Allen, il est encore en... Tu vois, faut aussi qu'il réfléchisse un minimum sa carrière.
Ramzat, après le combat contre Whittaker.
Non, parce que après Whittaker, il prendra Duplessis ou... Non.
Si, Ramzat, enfin, on verra s'il gagne ou pas, mais...
Non,
mais moi, je pensais, ouais, plutôt vraiment entre 15 et 10, tu vois. Histoire de pas griller les étapes.
Mais tu veux dire que genre
Chris Curtis lui met un vétéran qui a l'expérience et tout face au petit jeune qui monte, ça peut un petit peu montrer sa mentalité.
Par contre, moi je comprends pas pourquoi tu dis que après Whittaker il va prendre Duplessis. Tu veux dire que Whittaker après Ramzat il va faire la revanche contre Duplessis.
Mais j'aimerais bien. Hein, mais on sait très bien qu'il va devenir champion à un moment donné. Ramzat, c'est bon.
Attention, tu te souviens la dernière fois que t'as dit on sait très bien.
Une seule fois, ça arrivait. Les trois quarts du temps, j'avais raison.
Oh, ça va devenir insupportable cette émission. Tu veux faire un petit rappel de pourquoi je dis ça, Aurélien ?
Parce que Hugo avait prédit que Max Holloway allait mettre KO Gaethje alors que personne n'y croyait.
C'était impossible, bref.
Mais voilà, du coup, un petit peu.
Impossible devenu possible pour le coup.
Exactement. Voilà, du coup, un petit peu pour un petit peu ces petites previews potentielles du futur, quel combattant affrontera qui à l'avenir. On va faire une première petite pause musicale, c'est Nora qui a choisi les musiques.
Yes.
Nora, tu mets quoi comme musique ?
Alors, petit son des années 90, Would I Lie to You, de Charles et Eddie.
Eh ben, on s'écoute ça là.
Yes.
On s'écoute ça et on revient juste après, à tout de suite. Yeah.
not the kind of game I play. I'm telling you, baby, you will never find another girl in this heart of mine.
In this heart of mine.
Deep in my heart.
Whoa!
Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
Oh, yeah.
Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. Would I lie to you, baby?
Would I lie to you, baby?
Look into my eyes, can't you see they're open wide? Would I lie to you, baby? Would I lie to you?
Oh, yeah.
Don't you know it's true, girl? There's no one else but you. So would I lie to you, baby? Yeah.
Would I lie to you?
Trust me, baby.
Bagarre Club.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club et on va continuer un petit peu notre émission autour de l'UFC 300. Donc dans la première partie de l'émission, on était encore un petit peu voilà, dans le côté, on était encore dans les combats quoi, tout simplement. On était vraiment sur la suite pour les combattants, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Là maintenant, c'est l'heure de faire vraiment le bilan de l'événement de manière globale et non pas combat par combat. Et les gars, moi je vais vous poser déjà une question pour commencer. Cet événement, il y a eu beaucoup d'attentes autour, il y a eu des questionnements, il y a eu des critiques, il y a eu de la hype, il y a eu beaucoup de choses. C'est un événement qui a été réussi. Ça, je pense qu'on peut tous s'accorder pour le dire, au vu des combats qu'on a eu, tout ça. Maintenant, j'allais plus loin, c'est est-ce que c'est un événement qui a dépassé vos attentes? Looney, vas-y.
Bah alors, dépassé, non. Ça a été franchement, dans l'ensemble, si on enlève peut-être Kelvin Kattar contre Aljamain Sterling, c'est un événement qui a tenu toutes ses promesses. Maintenant, là où il m'a surpris, là où je m'y attendais pas. Typiquement, je ne m'attendais pas à ce qu'Alex Pereira arrive à éteindre Jamal Hill avec une telle décontraction, enfin une facilité aussi impressionnante. Déconcertante, oui, c'est ça. Et idem, bon, pareil, inutile de revenir dessus pour la énième fois, hein, mais le choc entre Justin Gaethje et Max Holloway, c'est historique. Je pense qu'on aura une performance comme ça, on en a eu très peu, on en aura très peu dans l'histoire de l'organisation. Donc oui, non, c'est clairement je pense que c'est un événement, en tout cas au vu de la résultante des combats, c'est un événement qui a fait, fêter énormément de personnes qui pouvaient déclarer non, c'est pas digne d'un vrai UFC 300. Si, clairement en termes de highlight, ou en tout cas de moments vraiment impressionnants, l'UFC 300 n'a clairement pas été avare, tout au contraire.
Hugo, un petit avis sur cette UFC, est-ce que ça a dépassé tes attentes?
Alors ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, moi, les attentes que j'avais quand ils ont...
Alors, d'un point de vue...
d'un moi,
désolé.
Alors pas d'un point de vue, est-ce que t'es déçu des résultats de tes combattants ou quoi?
Non, pas du tout, pas du tout.
Spectacle global.
En fait, quand ils ont annoncé l'UFC 300 et que Dana White nous avait dit « Oui, vous allez pas en croire vos yeux, ça va être exceptionnel », il parle comme ça, « Vous allez voir, ça va être exceptionnel » et tout, ils nous avaient vendu vraiment la meilleure carte de tous les temps, il n'y aurait pas de doute, des trucs de fou. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des attentes, mais beaucoup trop hautes. Je m'attendais à un retour de Brock Lesnar. Enfin, je dis ça, non, bien sûr que non, j'y croyais pas, mais je m'attendais vraiment à avoir un truc de ouf, quoi.
Oui, mais c'est normal, il est censé faire la promotion de,
ouais, mais
de son événement.
Bon, là, quand même, il a un peu abusé sur son truc à la base. Quand ils ont commencé à dire des trucs un peu plus réalistes, du genre, oh, on va avoir Pereira Hill en main event. Moi, j'ai vu la carte et je me suis dit, ben, on en a parlé dans les émissions avant l'UFC 300. On était très satisfait de cette carte-là quand même. Et oui, je m'attendais à ce que ce soit vraiment bien. Et en fait, c'était vraiment bien. Donc oui, ça. Je ne sais pas si je dirais que ça a dépassé mes attentes, à part pour vraiment, comme t'as dit Lounis, et c'était très pertinent. Je te remercie. Je sais pas pourquoi je parle. Enfin bref, c'est... en tout cas c'était très pertinent et je te remercie. Le combat Justin Gaethje Max Holloway dont on a parlé quelques fois était historique et on aura rarement des performances comme ça. Enfin j'espère qu'on en aura plus, mais on a eu rarement des performances comme ça. Pereira Hill pareil, je m'attendais pas à ça.
En fait, il y a des moments forts qui vont faire que cette UFC 300 aura marqué les esprits tout simplement.
Oui, je suis d'accord. Bah c'est ça. Et ça a dépassé mes attentes.
C'est ça. Et en fait, c'est vrai que moi je me souviens quand on faisait un petit peu les previews de la carte. Ce qu'on disait principalement, c'est que la carte en elle-même, elle est incroyable. Elle est vraiment top, c'est que des combats de fous. Mais on disait, ça manque de paillettes. C'était ça, ça manque un petit peu de superstars et tout. Et en fait, moi, je me suis posé la question, c'est que le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus vraiment de très grosses stars qui ont un statut supérieur à l'UFC, on pense évidemment à McGregor, et bien est-ce qu'au final, est-ce que la vraie star de cet événement, c'est l'UFC lui-même et pas plus trop les combattants.
Je pense parce qu'il... Alors, à nouveau, là, c'est compliqué.
Et là, je trouve, avec cet événement, vraiment, ils assoient encore plus leur autorité vis-à-vis des combattants. Ouais,
ouais. Alors, les chiffres n'ont pas été rendus publics, mais j'ai cru comprendre que, justement, c'était vraiment astronomique.
Ça a battu des records d'audience, des choses comme ça.
Le nombre de billets vendus et même d'audience pour l'UFC 300 était vraiment complètement dingue. Mais comme tu viens de le souligner, c'est assez impressionnant dans la mesure où... Allez, peut-être à part justement et encore Alex Pereira ou Holloway, il n'y avait pas d'énormes têtes d'affiche. Charles Oliveira à la rigueur, mais c'est tout.
Il est plus champion, il a un peu pâti ces derniers.
C'est-à-dire que vraiment, si j'essaie de, en dehors de McGregor ou John Jones, qui pourrait justement être vraiment la superstar de l'UFC, il n'y avait pas Israel Adesanya,
Même John Jones, c'est pas au niveau d'un McGregor.
Ah non, mais personne n'est au niveau d'un McGregor.
McGregor, mais le truc le plus proche, ce serait quand même John Jones en termes de.
John Jones ou Adesanya, c'est vrai que c'est un bon exemple.
Ou Adesanya, je pense.
Khabib plutôt.
Non, Khabib est retraité.
À ce moment-là, je veux dire.
Il compte plus Khabib.
John Jones, les gens l'ont un peu oublié depuis aussi.
Non.
Je pense pas.
Si.
Bref. Calmez-vous les enfants.
Oh le débat.
un UFC. Mais en fait, c'est ce que je disais. J'ai vraiment l'impression que l'UFC a vraiment pris le pas en tant que c'est l'organisation qui est la star. Et plus forcément un combat qui va apporter l'organisation.
Non, clairement, parce que si on compare, je suppose que c'est ce que tu t'apprêtais à faire justement à établir justement des comparaisons avec les autres organisations de MMA.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas de concurrent en fait.
C'est là-dessus que je vais lancer Hugo. C'est qu'en fait, on a parlé, le PFL, ça a racheté le Bellator, il y a eu des événements à Paris, à Bercy, Cédric Doumbé, tout ça. Là, avec ces événements, en fait, ils ont montré qu'ils étaient déjà mais à des années-lumière de la concurrence, en fait.
En fait, c'est ça, ils ont profité de cette UFC 300, qui était, je pense, le plus gros événement à la suite de ce rachat par le Bellator, par le PFL. Ils ont profité de cette UFC 300 pour bien montrer que vous êtes rigolo, vous faites vos petites magouilles dans votre coin, mais bon, la Ligue des Champions c'est quand même nous quoi.
Ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Et en fait, ce qui est dommage, parce que le PFL, le Bellator qui est maintenant le PFL, mais le PFL fait d'énormes efforts en termes de divertissement, on va dire. Ils permettent plus de choses à leurs combattants. On pense notamment, c'est un peu le seul exemple que j'ai en tête, mais à part ça, j'ai vu que c'était quand même un peu plus développé de ce côté-là. Cédric Doumbé qui se ramène avec un matelas dans l'octogone, j'ai du mal ce soir.
C'est ça, c'est pas. En fait, le truc, c'est que c'est pas des choses qui viennent du PFL en eux-mêmes. C'est Cédric Doumbé qui est la superstar.
Oui, mais ils autorisent
en
plus.
C'est comme
ils autorisent plus. Alors que l'UFC, tu vois, ils viennent d'autoriser les shorts personnalisés et je pense qu'ils ont eu un contrôle dessus.
Non, mais bien sûr, mais c'est surtout que même si je fais la comparaison avec le KSW, en fait, ils ont un combattant que les gens connaissent. Le PFL, c'est Cédric Doumbé et je vais même pas citer Ngannou parce que Ngannou, il a pas combattu en MMA depuis 2 ans.
Jake Paul aussi.
Oui, non, mais voilà. le KSW, donc ils ont Saladin Parnasse, mais c'est tout.
Saladin Parnasse hors France et hors des gens qui suivent un peu le MMA.
Personne ne sait qui c'est, donc c'est vraiment l'UFC.
J'irai pas jusque-là. Quoi. Alors,
en fait, Saladin Parra, c'est hors les gens qui suivent le MMA.
C'est ça.
Personne ne connaît.
Personne
ne
connaît en dehors de ceux qui enfin, justement, qui touchent un peu leur bille en MMA.
Oui, ouais, genre, aux États-Unis,
c'est ça. Genre, en France, même s'il y a des gens qui suivent pas le MMA, qui connaissent quand même, mais aux États-Unis, par exemple, ceux qui suivent pas.
Voilà. Alors que l'UFC, ça reste un nom, en fait.
Mais c'est dû à quoi, cette différence de visibilité entre d'un côté l'UFC et de l'autre côté
Parce que l'UFC s'inspire, je dirais que ce qui différencie vraiment l'UFC, c'est un sujet qui est vraiment intéressant.
C'est les milliards d'euros.
Je te remercie de le souligner, Nora, mais c'est l'UFC, ils sont très forts pour créer ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire pour te brosser le portrait de combattant et pour te donner envie d'assister à un combat, même si t'as jamais vu les combattants. Ils vont jouer sur des cordes sensibles, je sais pas. Ils vont te dire que, il y en a un des deux, en fait, il est né avec une malformation au pied, mais en fait, à force de travail, c'est devenu un monstre en jiu-jitsu brésilien. Et puis, en face de lui, il y a un mec qui s'est fait battre par son père. Et en fait, c'est devenu un striker de dingue. Ils arrivent à te créer comme ça des histoires où t'as envie, en fait, de regarder le combat.
Ouais, t'es en train d'empathie.
C'est un truc que je terminerai là-dessus. Aucune autre des organisations n'est capable de créer une promo comme ça. Et même en fait, en termes de graphisme, d'identité visuelle, ils ont Bruce Buffer qui est probablement l'un des meilleurs, speakers, je pense, de sport de tous les temps. Ils ont, les combattants les plus bankable possibles.
Alors après, j'aimerais bien qu'ils fassent ce petit effort divertissement. Ils ont les moyens. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus, un peu plus de paillettes. Parce qu'en fait, on dit oui, cet UFC 300, il manquait de paillettes. Je pense que l'UFC pourrait.
Je
suis pas d'accord. Il termine l'UFC 300, il sort quoi, Marachev contre Poirier?
Non, mais par exemple, tu vois, juste cette histoire de short là. Je sais que vous
allez dire un truc. C'est pas des shorts personnalisés qui vont faire que le PFL.
Non, mais c'est un exemple. Non, mais je dis juste, je dis pas.
Mais le diable est dans les détails.
Non, mais pour le coup, merci Nora. Merci de ta remarque, Nora. C'était très pertinent et je te remercie.
L'UFC, ils ont les meilleurs combattants de la planète. Mais bon, heureusement, PFL,
je dis juste que
il est où son short brasil?
Je prends des exemples, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que et je pense que jamais je vois pas comment c'est possible que le PFL, tu dormais pas,
j'aimerais bien avoir une voix encore plus nazière, mais j'ai pas envie de briller les tympans de nos auditeurs.
Mais en plus,
passons.
Voilà. On se disperse. Honnêtement, je pense pas que le PFL ou le KSW arriveront un jour au niveau de l'UFC. Mais si ça arrive, ce ne sera pas par le biais de shorts personnalisés. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que l'UFC aurait moyen d'ajouter plus de paillettes, justement.
Mais c'est
moi, je suis pas d'accord. Enfin, je trouve que c'est l'inverse, justement. Je trouve l'UFC, il mise plus notamment sur le côté vraiment spectacle, sur le côté show à l'américaine.
C'est ça.
Là où le PFL et le Bellator misent plutôt sur le côté vraiment purement sportif, en organisant des tournois avec des quarts, des demi, tout ça. Enfin, voilà, je trouve que c'est vraiment plus dans ce sens-là. Et malgré tout, les meilleurs sont quand même à l'UFC.
Mais même sans comparer avec les autres organisations, moi, j'aimerais bien, mon souhait, c'est que l'UFC fasse un peu plus d'efforts sur le côté bling-bling, justement.
Ah bah, je trouve qu'ils peuvent pas faire plus que ça.
Bien sûr que si.
Ah, je suis pas d'accord, hein. Enfin, les mecs qui remplissent des salles ultra iconiques.
Ils ont pas le droit d'arriver avec des tenues personnalisées. C'est un exemple. C'est Adesanya qui disait. Je crois que c'est Adesanya qui disait que. Je crois que c'est Adesanya qui disait que l'UFC appréciait pas trop quand il faisait ses entrées. Le truc qu'il a fait avec l'Undertaker là. Et là pour le coup, je vous parle vraiment du fanboy qui est en moi. Aime le spectacle un peu WWE, même si j'aime pas le sport. Mais voilà. Et honnêtement, je pense que ce genre de choses là que Adesanya a fait plusieurs fois et pour lesquelles l'UFC était vraiment pas chaud à la base, c'est-à-dire arriver en dansant avec son arrivée spéciale style catch, etc., etc., il pourrait plus le faire, mais il décide de pas le faire parce qu'ils veulent garder une image propre et je trouve ça dommage.
Moi je pense que c'est plutôt au contraire. En fait, tu t'en fiches de rajouter plus de paillettes à partir du moment où t'as George Clooney et Matthew McConaughey dans le public, que tu remplis Madison Square Garden, que
les paillettes elles sont très
faciles. Voilà, c'est ça.
Mais t'as pas besoin, en fait, t'es pas, faut te démarquer aussi, t'es pas la WWE, t'es autre chose. Tu peux faire des trucs qui s'en rapprochent, mais t'as pas besoin de ça, en fait.
Et dans tous les cas, on va mettre fin un petit peu à ce débat pour dire que l'UFC sont loin devant la concurrence, notamment parce qu'il n'y a pas d'épines dans leur cage.
Tout à fait.
La concurrence vend des marrons.
Très bien vu.
Voilà, tout simplement. Non, donc voilà, UFC 300 qui a été plus que réussi. Voilà, moi je trouve
historique,
que historique, qu'on s'en souviendra, incroyable. Que ce soit dans les combats, que ce soit dans tout ce qu'il y a eu autour, les débats, tout ça, les combats qui ont été annoncés, les gens qui sont venus le voir sur place, enfin vraiment, c'est même les chiffres, je pense que dès qu'on les aura, ça va être quelque chose. Dernière petite pause musicale, qu'est-ce qu'on s'écoute, Nora?
On va s'écouter Guadalupe Pineda, Historia de un amor.
Et bon, on s'écoute ça. Et exactement,
c'est
alors qu'il fait gris actuellement à Nantes.
C'est pas vrai, il y a du ciel bleu.
Voilà, et on s'écoute ça et ensuite on revient pour parler un petit peu du retour de McGregor. À tout de suite.
À toutes.
En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, por hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Qué noche tan oscura, todo se me hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. La historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después.
Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha devolver.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
On est de retour en direct sur Prune, vous écoutez toujours le Bagarre Club. On va être ensemble encore une petite dizaine de minutes pour la fin de notre émission. On a parlé en long, en large, en travers de l'UFC 300, du bilan global de cet événement. Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu au futur. Parce que malgré tout, après l'UFC 300, c'est pas clap de fin du MMA générique et basta. Il va y avoir une suite, et notamment la suite, elle a été annoncée par Dana White juste après l'événement. Et notamment... en juin, donc pour l'UFC 303, on aura le retour de la superstar Conor McGregor, contre Michael Chandler, emploi welter, donc mi-moyen. Qu'est-ce que vous attendez globalement du retour de McGregor?
Tu veux te lancer, Hugo?
Vas-y, Hugo, lance, fonce.
Moi, je pense qu'on va avoir une image cursed ce soir-là, comme dirait Lounis.
Non, mais oui, je pense que
ça va être compliqué.
Restons déjà d'un point de vue hors purement sportive, voilà. Juste en termes d'image, qu'est-ce que ça représente un retour de McGregor, tu vois?
Bah, c'est comme d'habitude, hein, à chaque fois qu'il revient, c'est la folie, tout le monde va regarder. Alors que oui, sportivement, ça va pas être à un niveau de... Je sais même pas si ça va être au niveau d'un combat de... Arrête avec ton câble. non, mais je sais pas si le niveau sportif va être là. Voilà, les deux combattants. Enfin, McGregor, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Chandler, c'est pareil. On sait pas dans quel état ils vont revenir. Voilà. Mais tout le monde va regarder parce que c'est McGregor.
Évidemment. Mais moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est que je pense, hein, pour aller dans votre sens, je pense que effectivement l'événement va encore péter des chiffres de vente astronomiques parce que c'est Conor McGregor et que son retour depuis sa blessure face à Dustin Poirier est quand même très très attendu. Maintenant, il y a un truc qui m'intéresse moi autour du phénomène Conor McGregor depuis qu'il est plus champion, que de l'eau a coulé sous les ponts, c'est que comme c'était le cas pour la revanche face à Poirier, on va tous regarder le combat, non pas parce qu'on s'attend encore vraiment à un énorme niveau technique, mais parce qu'on a l'espoir de retrouver une image très éphémère finalement de Conor, c'est-à-dire un Conor qui n'est plus depuis pratiquement 10 ans, c'est-à-dire le Conor qu'on a en tête, celui qui est capable de terrasser n'importe qui est très véloce, très agile, avec des réflexes complètement dingues, c'est le Conor, on va dire, entre 2013 et 2016, globalement, d'avant le combat contre Khabib, donc en 2018. Et c'était il y a plus de 10 ans, en fait. C'était une époque où Barack Obama était encore président des États-Unis, vous voyez. Non, mais pour situer, quand même. Et, moi, l'aura de Conor McGregor m'interroge et m'intéresse en ceci que, le monde entier va regarder parce qu'en fait, Conor McGregor a passé... Il me semble qu'il a quasiment passé le stade où c'est juste un combattant, c'est une icône culturelle en fait. Et vous allez regarder, même si Michael Jordan jouait un match de basket à l'heure actuelle alors qu'il a plus de 60 ans, les gens regarderaient quand même parce que c'est une icône culturelle. Et McGregor, je pense que c'est probablement, allez peut-être avec Brock Lesnar, c'est le seul dans le cosmos du MMA qui est capable de générer une attraction pareille alors même qu'il est... Il est plus au top, quoi, depuis plusieurs années maintenant.
Est-ce que c'est pas justement stratégique de la part de l'UFC d'amener un combattant qui fédère autour de lui pour justement
C'est pas stratégique. Ils ont une poule aux œufs d'or. La poule, tant qu'elle peut pondre, ils la font pondre.
Ouais, c'est ça.
Il y a rien de stratégique.
Voilà, du coup, est-ce que l'idée, c'est pas justement de générer de l'audience de cette manière-là en ramenant
plutôt que de se dire
a un combattant intéressant peut-être plus
parce que Conor est plus gros que l'UFC je pense ou quasiment aussi gros que l'UFC
Ah oui, bien sûr, en termes de superstar
plus honnêtement
plus voire carrément plus parce que c'est ça, c'est une icône.
Ouais, exactement, donc McGregor, l'icône qui sera de retour. Du coup, on en a parlé un petit peu aussi rapidement. En fait, il y a eu l'émission The Ultimate Fighter. Donc, comme je disais, deux coachs qui montent une équipe de combattants pro et de futurs stars, entre guillemets, d'espoir, on va dire, du MMA.
De prospects.
Tournoi entre les combattants et à la fin, les deux se tapent dessus. Et ben là, ça va être justement les deux coachs qui vont s'affronter. Je crois sur Ultimate Fighter, c'est l'équipe de Chandler qui avait
complètement lavé l'équipe de Conor.
Pour expliquer rapidement,
il y a eu quoi, 9 victoires à 1, un truc comme ça.
C'est même pas ça. C'est que l'équipe de Chandler a gagné tous les matchs à tel point que et c'était inédit dans l'émission. Pour la deuxième partie de la série. Conor McGregor n'avait plus personne dans son équipe, donc il a été obligé de prendre une partie de l'équipe de Chandler dans son équipe.
Bon, après sur cette émission, il y a vraiment le côté un petit peu presque télé-réalité.
Mais c'est une télé-réalité.
Donc c'est vrai que moi personnellement, je vais pas vous mentir,
personnellement, c'est un pléonasme.
Ça m'intéresse pas des masses, mais généralement le combat qui... Alors, il y a deux cas de figure. Le combat final, donc entre les deux prospects, justement, qui s'affrontent, peut être très intéressant. Forrest Griffin, notamment.
Il était très bien, celui de Team McGregor et Team Chandler.
Mais enfin bref, on attend plus on va dire la fin de The Ultimate Fighter que la saison, parce que c'est vraiment pas mon type de programme, quoi.
Voilà, ouais, tout à fait. Et du coup, on va se lancer comme ça. C'est encore à chaud ou à froid en fonction de quand on parle. Je vais vous demander un prono, les gars. Le premier
pour
prono,
pour McGregor Chandler.
Pour McGregor Chandler, je vais vous demander un prono.
Ça va changer au fur et à mesure.
Ça pourra changer. Mais justement, ça peut être intéressant de voir au fur et à mesure des deux prochains mois qui vont arriver. Comment ça va évoluer? Est-ce que voilà les choses en fonction des images qu'on aura vues?
Je sais pas pourquoi j'ai. Alors, je vais le dire là maintenant, ça se trouve. Bref, la lumière me joue des tours, mais je vois Chandler mettre KO Connor sur un high kick. Je le dis comme ça pour note à plus tard, mais j'imagine, je sais pas, je vois un high kick de la part de Chandler sur Connor McGregor.
Bah moi, encore une fois, il y a le prono du cœur et le prono du cerveau, hein, toujours. Le prono du cœur, pas particulièrement parce que je suis fan de Connor, j'ai passé ce stade depuis un moment, mais je trouverais ça incroyable qu'on assiste à un retour comme il l'annonce tout le temps, c'est-à-dire le plus grand retour de l'histoire des arts martiaux mixtes. Ouais, j'aimerais bien voir un KO premier round de Connor sur Michael Chandler. Je pense que c'est pas ce qui va se passer. Je pense que Michael Chandler va lui rouler dessus comme c'est pas permis. Dans tous les cas, je pense qu'on aura l'un des premiers rounds les plus explosifs de l'histoire de du MMA. Sachant que les deux...
Si le combat tient toutes ses promesses, ouais.
Ouais. Moi, je suis d'accord.
Parce que Michael Chandler, il a fait des premiers rounds exceptionnels face à Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles Oliveira. C'est un bulldozer. C'est un bulldozer. Bon, il n'a pas une
intelligence martiale très poussée.
C'est ça. Mais ce qui est bien avec... Mais il essaye pas. Et c'est ça qui est bien avec Michael Chandler. C'est que c'est vraiment, et c'est pour ça qu'il est un favori des fans, parce qu'il fait passer les fans avant tout. Et que même s'il est défoncé, même si il est en train de perdre le combat 4 rounds à 5, c'est un mauvais exemple, s'il est en train de gagner le combat 4 rounds à 0, bah, il va quand même faire son dernier round à fond, quitte à se mettre extrêmement en danger et à perdre le combat sur ça, parce que c'est ce que les fans veulent.
Et ouais, il fait toujours tout.
C'est ça, il fait toujours tout pour les fans dans ses combats. Voilà. Okay.
Donc du coup, tu restes sur le McGregor du coup ou tu...
Non, comme prono, je vais dire Chandler KO round 2. 3.
Okay. Ouais. Ça ira pas jusqu'au 3e.
On va voir, mais ça me semble audacieux.
C'était quand le dernier combat de McGregor?
2021, juin 2021.
Ça s'est passé.
J'étais encore en licence.
Il s'est blessé. il s'est blessé au niveau de la cheville. Oui, de la fiche, je crois. Vraiment de manière très...
très graphique. Très...
Ouais, bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Enfin, je pense que tous ceux qui nous écoutent l'ont vu, qui gravitent dans la sphère MMA ou pas.
Ouais. Moi, mon prono, je vais partir sur Chandler par soumission round 2. J'ai envie de tenter une soumission. Ah. Ouais, je sais pas. Oh. Je vois bien Chandler qui a un côté très... qui a une très bonne lutte, malgré tout. Et qui a un côté, qui va chercher un takedown... un slam carrément limite, vraiment tout en puissance. Donc mon prono. Voilà, du coup, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Les podcasts vont être disponibles, Hugo?
Ouais. Quand j'aurai le temps.
Hein, Hugo?
J'ai plein de projets en cours. J'ai plein de projets en cours.
Oui, bien sûr.
C'est vrai, en plus.
Les 4 heures d'heures de cours par semaine, c'est...
Oh, c'est pas vrai. T'es dur.
Voilà, bref, les podcasts vont être dispo dès qu'Hugo peut s'y mettre. Forcément, ça prend du temps, on n'a pas l'impression comme ça, mais je dis ça
hors ironie. Ils n'ont jamais fait de podcast, il n'y a que moi qui l'ai fait.
C'est vrai que c'est lui qui le fait, donc
ça prend plusieurs heures quand même.
Voilà, tout à fait. Vous pouvez nous suivre en attendant sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, @lebagarreclub. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Bagarre Club. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.